podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro, très content de vous retrouver pour un nouveau Terrain Basique. Celui-là est particulier par rapport aux plusieurs qu'on a enregistrés dans les derniers mois. On est live au Musée de l'Absurde, on est trois dans la même pièce. Je suis avec Emmanuel Côté-Séguin.
Bien le bonjour!
Et avec un certain mystérieux François Lompré, salut!
Hey, salut les magiciens!
Le micro collé sur le menton, oublie
mais
pas!
C'est...
Ouais. Hey, en fait, aujourd'hui, on a comme deux, trois sujets qui s'empilent. Et en fait, moi, je suis très content parce que si on enregistre live, il n'y a pas comme de son tout croche au micro et de Zoom ou de téléphone, ce qui explique que vous êtes en train d'entendre en background la trame sonore d'un jeu qui s'appelle Alundra.
Yeah.
ouais, ben c'était probablement le seul bon côté de ce jeu-là. Et si vous voulez voir votre animateur en tabarnak, vous pouvez aller sur Douteux TV. Récemment, ça va faire un an bientôt qu'on s'est rendu à la fin de Alundra, un vieux classique, j'en parle amplement là-dedans. On ne développera pas trop ici à Terrain Basique sur mon expérience avec Alundra. Votre expérience, je pense que vous m'avez accompagné
pas mal.
On en a déjà parlé aussi, je pense, un peu, quand ça se passait.
Quand ça se passait.
Ouais.
Écoute, la souffrance était vive. cette semaine, Lompré, tu vas nous amener dans Double Masters.
Oui.
Et Emmanuel, toi, tu développes un dossier sur quoi?
J'ai préparé un petit quelque chose sur le jargon de Magic. Là, ça va être, on va parler de termes qu'on utilise souvent, peut-être que du monde que vous avez déjà entendu, dont on a déjà probablement parlé au show, d'autres peut-être un peu moins connus, mais juste du slang, de l'argot, des termes non officiels que tout le monde se sert dans Magic.
Pas mal cool ça, parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme des nouveaux, des newbies, puis là, ben on va lui pitcher un petit peu de lingot tout en même temps. Mais on est au fait. Hein, il est arrivé la date limite des échanges et des grosses transactions ont été posées. Hein, en tant que spécialiste du domaine de gens intéressés, Lompré, tu veux nous aider à réviser la nouvelle liste de bannes? Moi, de mémoire, c'est la plus grosse liste de cartes bannies d'un coup que j'ai vu de ma vie.
Ça égale, je me rappelle plus l'autre set, là, le dernier standard qui a eu autant de cartes, c'est 10 cartes bannies en standard.
OK.
Ouais, ben c'est ça. Wizard, je pense qu'il nous avait averti que ça arriverait de plus en plus souvent des bans. Ils veulent s'ajuster au jeu et tout ça. Puis c'est ça. On est rendu là.
Ben c'est surtout la façon dont ça s'est fait cette fois-là, c'est qu'ils l'ont pas annoncé d'avance. Là. Ils n'ont pas dit « OK, la semaine prochaine, on sort un ban pour Standard, Historique et Pioneer. » Ça a été « OK, aujourd'hui, pow! » 4 nouvelles cartes bannies en standard, 4 nouvelles cartes en Pioneer, les cartes en historique puis en Brawl aussi là, qui sont c'est un petit peu ça moins relevant comme mode, là, mais les gros, c'est vraiment standard et Pioneer.
Ben oui, on va faire le tour tranquillement, mais moi, avant d'aller là, je me dis... le fait qu'ils sont rendus avec des données autant probantes puis denses avec Magic Arena, me semble que ça doit comme aider à rendre le jeu mieux balancé, à sortir de l'équation des affaires, des variables trop conséquentes.
Ben c'est une des raisons qu'ils ont mentionné pour les multiples listes et updates de bans. C'est justement que en plus avec la COVID et tout ça, le monde sont plus à la maison. Ils jouent online, ils ont beaucoup de données, beaucoup de tous les tournois et tout ça, là, ils peuvent voir la méta se déplacer assez facilement, pas mal plus qu'avant.
Dans le cas d'une affaire comme ça, parce que là, mettons, dans le standard, ils enlèvent Growth Spiral, ça c'est un vert, un bleu, tu piges une carte, tu peux mettre un land en jeu.
Ouais.
En instant,
c'est très important de le mentionner.
Il y a aussi l'hostie de Teferi qui t'empêchait de faire tes spells sauf pendant ton tour. Même
le parti poupeux dont on a parlé amplement.
Mais je veux dire, des fois, peut-être juste d'en enlever une de ces cartes-là, ça peut faire que les autres, ils s'égalisent pas, mais les autres, ils vont d'un coup 4-5.
Ben, certains diraient qu'il y a certaines des cartes qui ont été bannies là, qui sont en retard là, sur le ban.
Le chat.
Par exemple, ben, le chat, oui, surtout Wilderness. US Reclamation. Là, ouais. On en a parlé assez. On en a parlé à la dernière fois qu'il y a eu un gros ban en standard.
Ouais.
Que, tu sais, quand ils ont fait le changement à la mécanique des compagnons aussi, là, que c'était le deck Temur Réclamation, là, qui était le deck qui était presque pas touché puis qui restait très fort.
Voilà.
Puis effectivement, il était très fort parce que la fin de semaine passée, c'était le Players Tour Finals. Dans le top 8, il y avait 4 decks sur 8 qui jouaient Wilderness Reclamation.
Ah, oh, fait que c'est sûr que c'est ça qui a expliqué qu'ils ont accéléré.
Growth Spiral, c'était dans un autre tournoi, là, peut-être un mois, sur le top 8 de finale. C'est la première fois qu'il y avait 28 copies de la même carte.
Top 8.
Dans le top 8.
Sur un maximum de 32.
Sur un maximum
de. Il y en avait 28.
Il y avait 28 Growth Spiral.
Ouais, c'est. OK.
Ça te donne une petite idée.
Ouais, effectivement. Puis toi, Lompré?
Ben, moi, je suis très, très, très heureux que le chat. Le chat va dans le four, là.
Ouais, ouais.
On n'entendra plus parler.
Sauf dans les decks maison, qu'on va dire. Oui. Puis en même temps, c'est pas si broken que ça.
C'est parce que c'était un combo qui était très, très, très difficile à interagir avec. T'avais pas beaucoup d'options pour interagir avec. T'avais des notions un peu clunky de gérer avec le graveyard adverse en sideboard et tout ça. Mais ils ont aussi justifié dans leur ban que, justement, online, sur Arena, la multiplication des triggers, ça devenait un peu... ça devenait lourd à gérer, tout ça, puis ça faisait des games qui étaient plus longues que ce qu'ils devraient, fait qu'ils ont mis ça pour... pour la balance du jeu, mais aussi pour le rythme.
Le plaisir du
jeu. Voilà.
Ouais, ouais, c'est bon. Ça. Fait que ça, c'est pour standard. On vient d'en parler des cartes. Inverter of Truth, ceux-là, je les connais moins, mais je suis très content de voir Walking Ballista. C'était vraiment comme une carte à combo. Cheapette facile. Là.
Certains diraient qu'il aurait peut-être dû bannir Eliod à la place, mais...
On l'a vu venir.
Ils ont pris un des deux.
Dans
là.
Le temps, on l'a vu venir. Là. Mais moi, je suis bien plus content qu'il ait banni Walking Ballista. Je veux dire, il y a quelqu'un à un moment donné qui l'a sorti avec un palincron. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc. qu'est-ce qui se passe? Là? C'est ça. Underworld Breach pour faire que toutes tes cartes puissent. On escape dans ton graveyard. Ouais. On l'a vu venir, celui-là aussi. C'est rien.
Ouais, ben ça, c'est quand c'était sorti avec. Avec Terros, tout le monde en Pioneer se sont mis à jouer Underworld Breach. Puis la dernière, c'est Kethys Hidden End, qui était aussi une carte à deck à combo assez intense. Oui, assez intense, les combos de Kethys avec les Mox Ember.
Ouais. Ah oui, c'est fatiguant, ça.
Ouais.
En historique, il y a encore Wilderness Réclamation.
C'est la suite des bandes de standard avec Teferi puis Wilderness. Puis Teferi, Time Raveler, qui est banni en Brawl parce qu'il avait noté que 10% des decks de Brawl utilisaient Teferi comme commander, là, comme commander du deck dans un format qui est tellement de choix que 10% des decks soient sur...
Ça devient vraiment considérable. Ouais. Là, ouais, c'est sûr et certain. Fait que ça, à partir du 3 août, voilà, vous êtes updaté. Ce qui nous amène dans la première partie d'émission, tu nous parles de Modern Masters. Non,
Double Masters.
Double Masters. Pourquoi je me plante tout le temps entre les deux?
C'est pas grave, je vais t'expliquer c'est quoi l'affaire de Double Masters. Double Masters, là, c'est parce qu'il y a toujours deux rares dans tes paquets. Ça, c'est nouveau. C'est ça. C'est deux rares ou mythiques, là, je pense. Puis c'est un set qui contient 332 cartes, dont 161 rares ou mythiques. Puis dans ce lot de 332 cartes-là, il y a 40 cartes qui ont été refaites sans contour, au borderless, comme on dit. Puis c'est ça. Quand tu précommandes une boîte, tu as deux cartes promo, qui est Wrath of God puis Court of Calling. Wrath of God, tout le monde connaît. Court of Calling, c'est un spell qui te permet d'aller chercher une créature et de la mettre en jeu, il me semble. C'est ça. Puis aussi, quand tu achètes une boîte, tu as deux cartes Box Topper. Puis ça, c'est des cartes borderless. Puis c'est ça. Puis cette série-là sort le 7 août 2020. au prix de 390$
la boîte.
La boîte de booster. Oui,
15 boosters pour 400$.
Mais t'as le double de la rare.
36 boosters, on s'entend. Excusez. Ouais.
Mais c'est sûr que c'est une série pour les riches. Là, où,
ben pour les collectionneurs. Ben, on voit que c'est activement axé sur les collectionneurs avec les borderless.
Ben, oui. Mais moi, je drafterais ça n'importe quand. Là.
Mais ils ont vraiment refait des bonnes réimpressions de cartes là, avec cette série-là. Je vais vous en reparler ultérieurement. Mais c'est ça. C'est un set principalement d'artefacts. Il y a 78 artefacts dans le set. C'est aussi un set de deck archétype. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cartes qui est... tu sais, pour le deck Tron, par exemple, il y a le set de Land Urza. T'as Karn Liberated. T'as une couple de cartes qui va dans ce deck-là qui a été réimprimé. T'as aussi le deck avec Dark Depths puis le Vampire X-Mage. Les deux sont dans le set.
Ah, mais attends, bon, on va en parler, là.
Ouais.
On va parler du fait que le dessin de Karn, c'était vraiment rectalement laid.
Le borderless, il est pas beau.
Oui, mais c'est aussi ceux qui suivent la page Facebook de Terrain Basique. On a mis aussi toutes les lands là, de Tron, qui avec incluant Karn, là, qui font une espèce de beau panorama. Bon sens, mais le dessin de Karn, c'est ouais.
Ce qui est bizarre, c'est que les trois lands sont super beaux, mais t'arrives avec Karn à la fin, puis... ça gâche le plaisir.
Ouais, c'était un yeah poly que t'étais là.
C'est ça, continuons. Y a d'autres
le deck de Depth puis de Vampire X-Men. Ouais, ça, c'est l'affaire que t'as un land qui arrive avec 10 tokens, puis là, t'en enlèves. Là,
le vampire, moment donné, là, tu le sacrifies, puis tu peux enlever tous les counters. Ton land devient une 20-20.
Hey, c'est quand même un...
Puis il y a aussi des cartes pour faire le deck avec Sneak Attack. T'as le Sneak Attack.
Sneak Attack qui revient.
Oui, puis avec le Dead Shadows.
Attends un peu, le Sneak Attack, un rouge, trois colorless, c'est un enchantement qui fait que tu payes un rouge puis tu peux mettre un monstre en jeu qui est Ace qui meurt à la fin du tour.
C'est ça.
Fait que ton M-Racule, tu peux le mettre en jeu.
Ouais. Mais il y avait Dead Shadow aussi dans ce deck-là, parce qu'il y a eu un deck typique à un moment donné qui gagnait pas mal les tournois. Puis c'est ça, il y avait Dead Shadow là-dedans. Puis il y a aussi l'archétype d'équipement, je pense. J'ai oublié le nom du deck-là. Mais ça vient avec Stoneforge Mystic puis Batterskull. La Stoneforge Mystic, elle te permet d'aller chercher Batterskull dans ta librairie. Puis, c'est ça. Tu peux la mettre en jeu pour pas grand-chose après. Puis sinon, t'as aussi le deck... tu peux faire des decks de Commander aussi. Il y a Arkham Daxon qui est dans le set, là. Puis, vu que c'est artefact dans le tapis, ça va très bien ensemble. Fait que c'est un set de très bonne réimpression. Puis, c'est ça. Il y a une carte, entre autres, que du monde qui était bien content que ça soit réimprimé parce que c'est une carte d'Arabian Nights. C'est une carte commune qui se vendait à 100$, apparaît-il. C'est la carte Oubliette.
Ça, c'est l'enchantement noir, deux noirs.
Un colorless. Puis, ça, dans le fond, tout ça. En gros, ce que ça fait, ça exile la créature puis tout ce qu'il y a dessus.
Tant que l'enchantement est en jeu. C'est ça. Et tout ce qu'il y a dessus, ça veut dire les artefacts, les équipements aussi.
Ouais.
Là.
Ouais.
Oh, le noir qui peut se débarrasser des équipements, mesdames et messieurs.
Ouais, mais c'est ça, quand ton enchantement pète, tout revient avec les équipements.
Je comprends, c'est pas mon premier rodeo.
Il y a aussi la Force of Will que tout le monde capote dessus. Là.
Ben oui, on s'en rappellera dans Alliance. Ouais. Comment ça, un Counterspell à 5, c'est non mais pourri? Ouais, attends un peu.
Puis c'est ça, j'ai remarqué, ben dans le fond, je trouve que c'est un set qui est draftable. J'ai déjà drafté du Modern Master, puis c'était moyen, je te dirais, mais regarder les cartes qu'il y a, les communes puis les uncommes, je trouve que ça a l'air d'un set qui se tient pour le draft.
Okay. Attends un peu. On dirait que t'as-tu un bon feeling?
Ça m'arrive, oui.
Vous l'aurez entendu ici en premier. Oh, ben, François l'a pris un bon feeling.
Ouais, ouais. En fait, c'est ça, Double Master, je trouve, c'est le set de Master qui m'a le plus excité à date. J'ai même fait un petit rond de pipi quand je l'ai vu. Bon, je vais vous parler d'une couple de cartes qui sont sorties que j'ai.
D'ailleurs, m'ont tapé l'œil. On va avoir un album sur Facebook. Ouais. On n'a pas trop développé sur toutes les cartes desquelles on vient de parler, mais n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. On a une belle communauté aussi, on les aime tous, sauf un.
Ou peut-être même en version vidéo.
Ben oui, c'est vrai. On commence à y aller sur YouTube. C'est quand même de la dédication.
Si vous voulez suivre l'épisode en voyant les cartes défiler.
C'est ça que ça se passe. Hey, puis d'ailleurs, je vais juste dire Prodigal Sorcerer.
Ping!
Hey, mais c'est quoi tu fais là?
Bon, ben je vais commencer par le blanc. J'ai choisi comme deux cartes par chaque couleur, puis en tout cas, à peu près ça.
Y a-tu des nouvelles cartes dans ce set-là?
C'est plus dans. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a, c'est plus dans les Uncom et Common, mais ça faudrait checker.
Les sets de Master, c'est habituellement souvent pas mal des reprints.
Là. Ouais, c'est ça. C'est plus des reprints qu'il y a d'autres choses. Là. Mais. Ouais, fait qu'on y va dans le blanc. L'Entax.
L'Entax est de retour!
Oui, le L'Entax est de retour. Le L'Entax, c'est un enchantement blanc pour un blanc au début de ton keep. Si un adversaire contrôle plus de land que toi, tu peux aller chercher dans ta librairie jusqu'à 3 basic land, les révéler, puis te les mettre dans ta main. Tu brasses ta librairie. C'est quand même...
C'est à la base de mon deck de mitraillette.
Ouais, ça, c'est une bonne carte qu'ils ont réimprimée. Il y a aussi... Stoneforge Mystic, que je vous ai parlé, je vais y arriver. C'est ça. Ça coûte un colorless, un blanc. C'est une créature Core Artificer. C'est un 1-2. Quand elle arrive en jeu, tu peux aller chercher dans ta librairie pour un équipement, la révéler, tu la mets dans ta main, puis après ça, tu brasses ta librairie. Ensuite, tu peux payer un colorless, un blanc, la taper, puis tu peux mettre un équipement de ta main sur le battlefield. Fait que dans le fond, avec le Battle Skull, le Batter Skull, c'est un équipement que quand il arrive en jeu, tu fais un token 0-1.
Un germe, oui, c'est un living weapon.
Ou 0-0, c'est un germe. Là. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, ça te fait une bébite quand même assez forte rapidement.
4-4, lifelink,
ouais.
Vigilance. Puis, quand elle est dans ton graveyard, tu peux la remettre dans ta main en payant 4. Je peux peut-être la trouver ici. Le Batter Skull. Mais non, on continue vers les autres.
Bon, fait que là, on va aller dans le bleu avec. Il y a Jace de Mind Sculptor. Me semble que c'est un des premiers Jace.
Ben, c'est surtout un des plus joués.
Ouais?
Ouais, oui.
Ah, ok. Ben, moi, je l'ai pas joué souvent.
C'est celui qui a 4 pouvoirs?
Me semble. Attends une minute, je vais y arriver. Oui, c'est celui à 4 pouvoirs. C'est un 2 colorless, 2 bleus. Il arrive avec 3 Loyalty Counter. Ils sont plus 2, tu peux regarder le top card de Target Player's Library. Tu peux la mettre en dessous de sa librairie. T'es pas obligé. Puis le 0, c'est pige 3 cartes. Après ça, tu prends 2 cartes de ta main. Puis tu le mets sur le top de ta librairie. Le moins 1, tu retournes une Target Creature dans ses mains. Puis moins 12 qui arrivera jamais. Ben, t'exiles toutes les cartes.
The fait.
Target player's library, then that player shuffle their hand into their library.
Ben, il n'arrivera jamais qu'une attitude
fait.
De même.
Tu l'as fait.
Ben oui, j'ai dit le fait.
T'as-tu mis un X sur ton calendrier? Parce
non,
que c'est
non, non. Ben, j'avoue qu'il commence à 3 puis il est plus 2 à chaque fois.
Ouais. Ça te prend des trucs, si tu proliférates puis des trucs comme ça.
Ben, on jouait à plusieurs puis tu te tenais tranquille.
Jace, il est fait pour être gluant.
Ouais.
C'est sûr,
c'est
certain.
Puis c'est ça, il y a le Force of Will. Je vais vous la décrire.
3 colorless, 2 bleus, c'est un counter target spell où tu peux discarter une carte bleue ainsi que payer 1 d'énergie en plus de discarter le Force of Wild à place de payer le 5 mana pour
faire ça. C'est la grosse carte, je pense, du set.
Kaboom! Le monde, ben oui, hein, ça s'est rendu que ça valait 180-200$ ces affaires-là. Ouais. Là, fait que ça va pouvoir tempérer un petit peu la chose. Oui. Je pense que j'en ai 3. Ça n'a pas de sens.
Ah, moi, un jour, elle sera mienne. Oui, un jour,
c'est quoi,
elle sera
des Force of Will?
Oui.
Ben,
j'en ai pas.
Tu te rapproches.
Là, je vais en avoir peut-être.
Ben oui.
Peut-être.
Puis, ben ça, on arrive dans le noir.
Ah, oh, yeah. J'ose.
Oups. Une minute. Je voulais pas faire ça. Dans le noir, il y a Todd Seas. Ça coûte un noir. Un noir, puis dans le fond, le joueur te montre sa main. Toi, tu choisis une non-land card de sa main. Il est obligé de la discarter. Puis toi, tu perds 2 points de vie. C'est extrêmement joué dans plusieurs formats, cette carte-là. C'est une autre carte qui vaut cher.
C'est dans les bons discards, là, à 1 de mana.
Oui, c'est pas le meilleur.
Ben, c'est parce qu'habituellement, un mana, c'est soit une créature, soit une non-creature.
Ouais, il y a une condition. Là, comme
là ça te coûte 2 de vie.
Ouais.
Puis, OK. Puis là, il y a aussi un autre que tout le monde connaît bien, Dark Confident. Dark Confident. C'est une 2-1 pour un colorless et un noir. Au début du upkeep, tu révèles la top card de ta librairie, puis tu la mets dans ta main. Tu perds des points de vie égaux à son mana cost.
Ouais. Ça, j'en veux de ça.
Ouais. Ben, c'est ça. Le truc avec ce bonhomme-là, c'est d'avoir des plein de spells qui coûtent un ou deux max.
Ben.
Je sais. Mais il faut le dire. Tu sais, c'est pas tous des experts qui nous écoutent.
Ben. Est-ce que de mettre un ou deux monstres lifelink pour regagner de l'énergie, tu penses que ça serait une bonne idée?
Ça peut, mais
on est sauf au premier but. On est sauf au premier but.
Ça se défend.
Ouais. Puis là, j'arrive dans le rouge. Ben c'est ça. En fait, vu que j'étais dans le noir, je voulais juste spécifier que dans le noir, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes cartes. Vous irez voir ça. Là, il y a plein de spoilers déjà qui sont sortis. Là. Puis vraiment, dans le noir, ils se sont gâtés. Maintenant, dans le rouge, il y a Blood Moon. Blood Moon, c'est un enchantement qui coûte 2 colorless, un rouge, qui fait que les non-basic lands deviennent des montagnes. Ça, c'est extrêmement joué dans des sideboards pour jouer contre justement le deck Tron.
Ben oui. C'est weird, cet effet-là. Tu sais, que la lune soit rouge,
ouais.
Ça fait que ta tour est une montagne. Je trouve ça bizarre.
Ça fait que ta tour produit de mana rouge.
Ouais, OK. Ça devient tout... Mais ouais. Ça... OK. Parce que Blood Moon, c'est le reflet rouge sur...
Ouais.
OK. On est sauf au deuxième but.
On progresse.
Puis c'est ça. Ben, il y a aussi Sneak Attack, que j'ai parlé tantôt, mais dans le fond, je vais te parler d'une autre carte, vu qu'on l'a déjà passé.
Ah ouais, on l'a fait
pas. Il y a Mana Echoes qui fait un retour. C'est 2 colorless, 2 rouges. C'est un autre enchantement. À chaque fois qu'une créature arrive en jeu, whenever a creature enters a battlefield, c'est ça. À chaque fois qu'une créature arrive en jeu, tu peux additionner. Du colorless égal au nombre de créatures que tu contrôles qui partagent un type avec.
Mettons que tu mets un troisième gobelin, ça te donne 3 colorless.
Exact.
OK.
Fait que c'est justement joué dans les decks de gobelins.
Ben c'est sûr.
Dans les tribal.
Ouais.
Ben, ou dragon, mais dragon c'est moins hot là.
Ben, en fait, c'est
rare que tu vas avoir comme 6 dragons back à back, là. Tu vas avoir 6 gobelins, ça va vite.
Ça arrive.
Puis OK.
Il y a là, dragons qui coûtent 1 ou qui coûtent 2.
On va aller dans Dragon Whelp puis Dragon Egg puis ces affaires-là.
Ouais. Tu restes assis maintenant. Puis en plus le dragon, t'aimes bien avoir du mana rouge, là, ton colorless peut pas te cracher du feu. Peut pas.
Fire breathing.
Fait que c'est ça. Il y a on va aller dans le vert maintenant.
Pas game.
Oui, je suis déjà sur la bonne page. Là, ils ont refait Doubling Season. Oui, cette carte, je l'aime beaucoup. Ça coûte 4 colorless, un vert. C'est un enchantement. Puis ce que ça fait, dans le fond, là, c'est que ça double toutes les counters, les tokens... Puis, c'est ça. Toutes les counters puis les tokens. Ça veut dire que pour tes decks de Planeswalker, quand tu
mets... Mais ça me semble que c'est un enchantement, là.
Oui, c'est un enchantement.
OK, mais c'est pas tu le casses puis ça double tout.
Non.
Pendant un enchantement, ton upkeep, fait... tu doubles tous les tokens partout.
Non, c'est tout le temps. C'est un effet continu, là.
OK,
si tu fais, un +1/+1 counter, tu fais deux. Si tu crées un token... whatever, t'en fais un ça, deuxième.
Avec l'enchantement simique, là, que tu mets un coup que t'as mis 20 +1/+1 compteur sur des créatures que tu contrôles, tu gagnes. Là.
Ouais.
Avec ça, ça va vite en esti, parce que ça devient juste 10.
Mais c'est surtout utilisé pour doubler les loyalty counters des Planeswalkers.
Ah, check l'autre qui vient d'arriver au McDonald's.
Ah oui.
Tu me prendras un trio, hein?
Fait que là, tu vas prendre extra bacon. Tu vas-tu le faire, ton ultimate, sur Jace the Mind Sculptor?
Ben, ça marcherait pas dans son cas, parce qu'il y aurait 6 loyalty counters. Ben, mais son +2 devient un +4.
Ben, c'est ça.
Ben, regarde, tu le fais une fois +2. la fois d'après,
ça va plus
tu,
vite,
tu le fais. Fait que là, ça devient... il monte à 10.
Puis là, faut que tu le refasses encore. Puis l'autre tour d'après, là, tu peux.
Vas-y,
c'est un peu long.
Lâche pas, Jess. Lâche pas, Jess.
Mais c'est ça, vous checkerez les Planeswalkers. Il y en a plein que juste avec les Loyalty Counters qu'ils ont en partant, quand c'est doublé, tu peux faire leur son ultimate. Là. C'est vraiment le fun pour ça.
Il y en a-tu pas mal dans le set des Planeswalkers?
Il y en a juste Jace, deux. Okay. Il y a Jace puis Karn.
Karn,
ah oui, c'est Liberated.
Les deux qu'on a parlé. Là. Okay.
Je vais y arriver tantôt.
Ouais, dans les colorless.
Ouais. Puis là, j'ai-tu parlé? Ah oui, il y a le Noble Hierarch aussi dans le vert qu'ils ont refait. C'est une créature qui coûte un vert. C'est un 0-1. C'est un druide humain. Puis il y a Exalted. Exalted, ça veut dire que quand une créature attaque seule, gagne +1/+1 pour chaque bonhomme Exalted que t'as. C'est un petit bonus. Mais son habilité qu'on aime le plus, c'est son... tu le tapes pour faire un vert ou un blanc ou un bleu.
Ouais, mais c'est un mana giver que tu peux quand même utiliser son power à l'attaque.
Oui.
C'est vrai que c'est fort honnête.
Oui.
Et en plus, il te donne des manas trois couleurs. Calme-toi, s'il te plaît, laisse-en pour les autres. C'est une elfe?
Non, c'est un humain.
Là, on jase. Ben oui, OK, c'est bon. Ça peut faire des decks, ça.
Oui. Bon, dans les multicolores, ben, en tout cas, il y a d'autres verts aussi qui sont pas pires. Vous irez voir ça. Il y a Tartusque.
Écoute, il doit y avoir pas mal de bonnes cartes
dans
pas mal chaque couleur.
Bon, on arrive dans le multicolore. Il y a Fulminator Mage que j'étais bien content qu'il réimprime. Ouh. C'est, dans le fond, deux mana hybrides noir-rouge et un colorless. C'est une créature élémentale chaman 2-2. Lui, tu peux le sacrifier, puis ça détruit un target non-basic land. Simple de même. C'est encore une fois pour péter les lands de Tron. Dans ce set-là, il y a beaucoup de bons lands. Fait que, encore une fois, c'est vraiment un bon set pour rester.
Balancé.
Oui, c'est bien balancé. Carlic. J'ai accroché le piton. Puis il y a aussi Mana Morphose qui ont refait.
Oh, cool! Oui, c'est le spell à joke, ça.
Ouais, ben ça, c'est pas une rare, mais c'est tout comme. C'est un mana hybride rouge-vert, un colorless. C'est un instant. L'instant, il te fait rajouter deux manas de n'importe quelle couleur dans ton mana pool, puis ça te fait piger une carte. Simple de même.
Oh, c'est juste pour triggerer un effet que quand tu fais un instant ou peut-être caster un spell que t'aurais pas été capable sinon.
Ouais, puis si t'as des rabais genre sur tes instants te coûtent moins, si tes instants te coûtent moins cher,
tu viens de gagner un mana.
Ouais.
Le pouvoir au peuple.
Ah oui. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les multicolores? Oui, c'est vrai. Dans les multicolores, ils ont fait pas mal de créatures légendaires pour faire des decks commander, puis il y en a des très bons qu'on connaît déjà. Il y a Atraxa, Praetor's Voice, qui est très joué dans Commander. Il y a aussi Breya Ethereum Shaper, qui est très joué aussi. Puis il y a aussi Geist of Sandcraft. Lui, il est moins populaire à Star, mais il a déjà été très joué en Commander. Ben,
dis-moi donc, c'est quoi qu'il fait, lui-là?
Le Geist of Sandcraft, c'est un colorless, un blanc, un bleu. C'est un 2-2. Spirit cleric, légendaire. Il y a Hexproof. Puis lui, quand il attaque, tu crées un jeton 4-4 ange. Oui, avec flying, qui est tapé puis qui attaque lui ici. Puis à la fin du combat, tu exiles le token. Ouais, c'est fort pour 3.
Ah oui, j'avais remarqué.
Ah oui.
Puis il est même pas comme 0-1. Là.
Il est 2-2.
Hexproof. OK.
Ouais, c'est couillu. C'est couillu. Mm-hmm. Puis après ça, on va aller dans le colorless. Fait que dans le colorless, il y a Karn Liberated. Karn, il coûte
7 colorless.
7, oui.
Ouais.
Puis il arrive avec 6 loyalty counter. Tu peux faire un +4 pour que target player exile une carte de sa main. Tu peux faire son -3 pour exiler un permanent. Puis tu peux faire aussi le -14 pour recommencer la game. Tu laisses toutes Living in Exile, All None of Raw.
Tu recommences une game, tu recommences une les game cartes que tu as
exilées. Oui, mais c'est que toutes les cartes qui ont été exilées par Karn,
ils restent exilées.
Ouais.
Ben, en tout cas, c'est utilisé dans le tronc, surtout pour son moins 3, là, de détruire des permanents.
Ben oui.
Puis c'est très fort pour ça.
Je l'avais poigné d'un booster, moi.
Ah ouais?
Ouais.
Puis tu me l'as pas donné.
Ben non, je l'ai mis dans mon deck
de
Urza, que je joue jamais avec parce que c'est de la merde.
Bon, puis dans les artefacts, là...
Je suis un petit gelé.
Ouais, on va s'en remettre. Il y a Ensnaring Bridge. Ça coûte 2, si je peux le trouver. Oui. OK. Il coûte 3, pardon. Les créatures qui ont un power plus grand que le nombre que t'as dans tes nombre de cartes que tu as dans tes mains ne peuvent pas attaquer. C'est quand même...
Très fort, ça.
Ouais, c'est très, très fort. Ouais. C'est une carte qui vaut cher aussi. Fait que ça, on est bien content qu'elle soit réimprimée.
Oui, ça, j'en veux de ça.
Il y a aussi Mana Crypt qui a été réimprimé. Ça n'a pas été réimprimé souvent. Je pense que c'était surtout des cartes promo, ces affaires-là. Sinon, c'était une vieille carte.
Ouais.
C'est un artefact qui coûte 0. Au début de ton upkeep, tu flippes une scène. Si tu perds en flippant ta scène, Mana Crypt t'a fait 3 points de dégâts à toi. Mais tu peux le taper pour faire 2 colorless. C'est quand même c'est fort.
C'est très genre de ça.
Ouais, c'est une vieille carte.
Ouais, mais qui coûtait très cher. Ouais.
T'as une chance sur 2 de perdre 3 d'énergie, ouais. Mais t'as 2 colorless, c'est sûr,
straight à chaque
pour 0.
Yep. Chris, puis là, après 3-4 tours, t'as sacrifié, puis ouais, tu donnes un pouvoir à quelque chose. Ben oui, c'est fort.
Un chien, ça.
Fait que on arrive-tu au bout de ton aventure?
Non, il y a les Swords aussi, mais je vais juste les nommer parce qu'il y en a une méchante gang.
Ils ont ressorti la série des Swords.
Ouais, je pense qu'ils ont toutes faites, là. Il y a la sword de Body and Mind, il y a la sword de Feast and Famine, il y a la sword de Fire and Ice, il y a la sword de Light and Shadow, Sword of the Meek, Sword of War and Peace. C'est ça.
C'est des pieuvres avec des paires de couleurs.
Ouais,
ça
donne tout plus deux, puis avec des powers, puis il y a aussi un...
Quand
la créature fait du dégât, ça fait un effet.
Souvent, c'est ça qu'il fait. C'est aussi souvent des petits cantrips qui sont liés à la couleur, là, comme Sword of Life and Death. Quand tu +2/+2, fait que la vie, c'est le blanc, fait que t'es protection from white. Le noir, c'est la mort. Et fait que t'es protection from black avec cette épée-là. Et quand tu fais du dommage à un joueur, ça va trigger deux petits cantrips. Il y en a un que c'est Healing Salve, tu gagnes 3 d'énergie. Et l'autre, c'est que tu remets un monstre de ton graveyard dans ta main.
Ouais.
Fait que là,
c'est très
bon. C'est une bonne carte.
Ils sont toutes très bonnes. Ouais. C'est des bons équipements. Ils coûtent 3 d'habitude colorless à sortir, puis 2 colorless à équiper après. Pour 5, tu viens.
On score. Là, j'arrive au land. Attachez-vous. Ils ont refait Academy Ruins. Ça, c'est un land légendaire. Tu peux le taper pour avoir un colorless, ou tu peux taper un bleu, un colorless, puis le land. Puis tu put target artefact de ton graveyard on top de ta librairie. Fait que tu peux toujours ramener tes artefacts. C'est super fort. Il y a aussi Dark Depths qui ont refait, qu'on a déjà parlé.
Ouais, ça te fait maritelage.
Ouais.
Un des monstres Lovecraftiens de l'univers de Magic, là, une espèce de grosse pieuvre méchante qui vient tout nous manger parce qu'on pue. Elle va commencer par toi, man.
Bon, j'imagine, de toute façon, tout est de ma faute, fait qu'il faut manger moi après. Puis c'est ça, ils ont l'agneau fait une série de Double Land aussi, mais c'est des Double Land, genre tu payes un mana hybride des deux couleurs qu'il fait, puis ça fait deux manas de la combinaison que tu veux à peu près, là. Mais vous,
Mettons,
ça fait deux. Tu payes
un blanc ou un vert, puis là, ça te donne un mana blanc puis un mana vert.
Ouais.
Okay.
Ou deux verts ou deux blancs.
Ok, c'est bon.
Donc, c'est ça. Dans le fond, ça fait. Ben oui, ils ont refait le Maze of It, le fameux Maze of It.
Ben oui.
Lui, tu le tapes, tu détapes une créature qui t'attaque, puis tu préviens tous les dégâts de cette créature-là, puis et voilà, elle est dans le labyrinthe.
Le bloqueur parfait.
Puis, En tout cas, ah oui, c'est ça, ils ont refait les lands d'Urza, puis comme on vous a dit, ils ont fait ces lands-là en borderless. En borderless, c'est des rares, mais la version normale, c'est des communes. Fait que c'est vraiment facile d'aller chercher son set si vous en
c'était
avez
comme
besoin.
Ça dans, c'était comme ça dans Chronicles aussi. Ouais. Le set était commun. Hey, merci beaucoup, Lompré. Ça sort le 7, ça, là? Ah oui, t'en reste encore?
Ben, j'ai fait le tour des cartes, là, mais juste des petits trucs à dire. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il y a des VIP boosters. Pis ça, il paraît que c'est le booster le plus cher ever qu'ils ont inventé. Puis ils n'ont pas mis le logo de Wizard of the Coast sur le booster. Fait que là, il y a du monde qui s'amuse à scammer cette affaire-là. Là. Genre du monde qui font des faux paquets. Puis ils vendent ça sur Amazon, puis ces affaires-là. Pis là,
déjà, bon, c'est même pas
fait
sorti.
Faites attention.
En tout cas, on m'a donné ce tuyau-là.
OK. Bon, ben,
ne vous faites pas avoir.
Ouais, ne vous faites pas
ça
avoir.
Ça sort le 7 à août. Fait que tout ce que vous achetez avant, ben, c'est un peu on you, hein, tu vois.
Puis c'est ça. Ben,
c'est tombé du troc.
Pour finir, là. Je suis bien content qu'il ait sorti ce set-là parce que ça va faire baisser le prix de toutes ces bonnes cartes-là. Ça va être plus accessible.
Voilà.
On va être tous plus heureux.
T'as-tu hâte de te faire des Force of Will?
Non.
C'est ça. Hey, merci beaucoup, Lompré. Ça nous amène
ça m'a fait
à la fin. Double Masters, c'est disponible le 7 à août. Vous irez voir sur le site d'ailleurs de l'Abyss, hein, notre magasin affilié, www.labyss.com. C'est nos amis. C'est d'ailleurs eux qui s'occupent de la carte de la semaine. En fait, qui nous. C'est à eux autres. Hein,
la présentation.
Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on les a laissés. Et ben, d'ailleurs, avant, on va écouter un beat à bonde et on s'en va vers la carte de la semaine pour débouler vers la fin de l'émission. Merci tout le monde. Beat à bonde. Hey, cette semaine, c'est moi qui l'ai choisi.
Ah ouais?
Ben oui, parce que dans Magic 21, là, on avait fait un draft, puis c'est ça qu'on avait fait? Non, je me rappelle plus.
On a drafté ça.
Et en fait, dans ces cartes-là, je suis tombé sur une affaire qui s'appelle Village Rights. Mm. Ça coûte un noir seulement. Et c'est un instant et un coût additionnel de caster ce spell-là, c'est de sacrifier une créature et tu piges deux cartes ensuite. Moi, je me souviens, dans le temps, je jouais une version qui coûtait un noir, un colorless, puis qui était sorcery de cette carte-là. Fait que une commune de M21 que je vais vraiment m'en acheter 80 puis en mettre dans plein de decks partout. Je trouve ça génial comme... tu sais, ah ouais, t'exiles mon monstre, ben à la place, je pige deux cartes.
Puis ton sort Fizzle.
Oui, et voilà, ton sort.
Guess Fizzle, c'est quoi?
Puis mon monstre, il est tantôt. Dans le graveyard. Ben oui, parce que tout un dossier là-dessus. You were so eager to take and consume, yet when asked to give, you refuse. Fait que c'est ça.
C'est l'heure
toi, tu veux manger, mais c'est ça. C'est le monde dans le village, ils ont l'air de se regarder l'air bête.
Ouais, j'ai pas hâte que tu me le fasses.
Ben, ça va être à mes monstres à moi que je vais
le
faire.
Je sais, mais okay. Tu vas piger.
Ouais, ça,
mais
oui,
c'est super contre. Cheap, puis ça donne une façon de sacrifier assez rapide.
Effectivement, tu voles le monstre à l'autre, tu le sacrifies. Oui, ça va être dans beaucoup de decks noirs-rouges, j'ai l'impression. Fait que là-dessus, on retourne au beat à bonde, et on s'en va à la deuxième partie d'émission avec Emmanuel. Merci tout le monde, bougez pas trop. Beat à bonde.
Yes! Ça fait que j'ai décidé cette semaine de vous préparer un petit dossier sur, dans le fond, le jargon de Magic, l'argot qu'on utilise à tout vent, des petits termes comme ça qu'on utilise, qu'on sait pas nécessairement d'où ça vient, qu'on entend le monde en parler. Des fois, on utilise ça à l'émission, peut-être que c'est pas tout le monde qui est familier avec certains termes. Il y en a qu'on a déjà mentionné, qu'on a déjà expliqué, on va en reparler. D'ailleurs, je vous invite à commenter sur la page de l'émission s'il y a des trucs que j'oublie ou si vous avez des trucs à rajouter. Tu sais, ça va être beaucoup des termes anglo parce que On joue en anglais pas mal, mais des fois, quand j'ai trouvé des petites traductions, on y est allé. T'sais, comme par exemple, là, on va commencer. Je me suis concentré sur les actions de jeu, les types de stratégies, les affaires comme
partie, ça. Il y en a beaucoup à dire quand même.
On peut appeler ça aller à la pêche. En anglais, ils disent digging creuser. Là. Hein, c'est quand on se concentre sur piger des cartes pour trouver peut-être la carte dont on a besoin, la carte qui pourrait changer la situation. Des fois, c'est en dernier recours, là, à la fin de la partie, tu le sais que tu as une chance peut-être de pas perdre.
De pogner ton extend pour tuer le flying. Ça, fait que là, tu sacrifies ton land qui te fait piger des cartes, puis vite, là, faut que tu creuses.
Tu creuses, puis si tu la trouves pas, ben tu conserves ça.
Tu envoies chier.
Ça. Ouais, c'est ça. Puis tu flippes la table. Pis,
ah, c'est ça.
Fait que oui, fait que creuser. Sinon, Alpha Strike, ça, c'est à l'inverse. Ça, c'est quand t'es dans une situation gagnante. Là, c'est quand tu tapes toutes tes cartes, là, ça va bien. Tu tapes toutes tes créatures sur le côté. Puis t'attaques
tout, en là. Disant c'est que... C'est le all-in.
C'est tu vas gagner. C'est le Alpha Strike. Généralement, t'espères que l'autre n'ait pas de réponse, là, parce que souvent, ça t'ouvre...
Genre un fog, là.
Ouais, c'est ça. Ça t'ouvre à une contre-attaque, là. Tu sais, un bon exemple de carte utilisée pour un Alpha Strike, c'est le bon vieux Overrun dans le vert, le 2 colorless, 3 verts, qui donne +3/+3 et trample à toutes tes créatures, là. Fait que ça aide justement à passer à travers...
Récent, ton 1-1 ben devient 4-4 trample.
Ça va vite.
On arrive au bout.
Sinon, bait, hein? Un bait ou un appât, si vous préférez. C'est quand on joue une carte de moindre importance, là, une créature ou un spell, pour inciter l'adversaire à jouer soit son counter spell ou son removal, pour après ça pouvoir passer ta plus grosse carte. Là, si tu doutes que ton adversaire a un counter spell parce qu'il joue dans le bleu, ou qu'il y a du removal parce qu'il joue dans le noir, puis tu as une très bonne... T'as une très bonne carte en main puis une moins bonne carte. Ben,
deux îles détapées, c'est douteux.
Ben, c'est ça. T'sais. Fait que tu te dis, je vais jouer ma moins bonne carte en premier pour bait le counterspell ou le removal.
Ah.
Je fais jamais ça, moi.
Ben non, c'est sûr. Laisse ça aux autres.
Un autre terme, souvent, ça, c'est très, très, très souvent utilisé, c'est le chump block. Chump bloqué. Chump, c'est H-U-M-P. Là. Un chump, c'est un... personne de moindre importance. C'est quand tu utilises une petite créature pour bloquer une plus grosse créature, juste pour soit pour ralentir l'adversaire, préserver ton total de vie. Des fois, il y a des créatures, des decks qui vont avec plusieurs petites créatures. C'est leur façon de survivre contre les grosses attaques. C'est qu'ils vont lancer leur 1-1 pour bloquer la 8-8 de l'autre.
Puis ils essayent d'exiler les tramples pour avoir la paix.
Voilà, exactement. Il y a une carte Wizard un peu fait un clin d'œil à ça. C'est pas une carte qui existe. C'était dans le set de Unhinged. Puis c'est même pas une carte qui existe. C'est que dans le set d'Unhinged, il y avait des textes cachés dans le bas des cartes. Il y avait un mot à côté du nom de l'artiste puis du numéro. Là. Il y avait un mot. Puis si tu mettais tous les mots en ordre, ça faisait une liste de cartes qui disaient des cartes qui n'avaient pas été retenues pour faire le set. Puis il y avait une carte qui s'appelait le Chump Blocking Orphan. Là. Fait qu'on peut imaginer là, la créature... la créature 0-1 qui est là juste pour aller se sacrifier devant le géant. Là,
quand il meurt en combat, tu piges deux cartes. Parce que tout le monde est triste parce que la petite fille aux allumettes est morte. Pourquoi c'est une histoire qu'on connaît, celle-là? La petite fille aux allumettes, pourquoi c'est Noël?
Ça, je sais pas. Ça,
elle allume
ça fait
des allumettes,
de...
puis elle meurt congelée, puis c'est beau.
Ben, c'est moral.
On est ému quand que c'est triste.
OK. Fait qu'en tout cas, chump block.
Ben oui, chump blocké. Ça, c'est un classique. Aussi, un autre terme qui est très, très, très utilisé, hein, c'est la curve, hein, la fameuse curve, la mana curve, qui est comme la disposition hein, des cartes selon leur coût de mana. Puis généralement, quand tu vas les mettre, tu vas avoir un petit peu de qui coûte 1, un petit peu plus qui coûte 2, un petit peu plus qui coûte 3. Ça va te faire une espèce
de cloche.
Là. C'est ta mana curve, mais des fois, tu vas avoir des decks qui vont comme monter toujours jusqu'à avoir pas mal ou qui vont se concentrer sur... qui vont faire comme un mur à la place d'être une curve à 1 puis 2. De même aussi, souvent les gens vont dire « curve out ». Ça veut dire, dans le fond, c'est au premier tour, tu sors un one drop, une carte qui coûte 1. Au deuxième tour, quelque chose qui coûte 2. Troisième tour, quelque chose qui coûte 3. Fait que tu utilises ton mana entièrement sur une carte à chaque tour. Ça veut dire que ta curve out. T'as, okay. t'as utilisé ta curve à sa meilleure
t'as
efficacité.
Ça,
là. Ouais, ben c'est. Généralement, quand tu curve out, t'es en bonne position. Ouais. Ta stratégie est sur des rails. Là.
Surtout en duel, en tout cas.
Ouais, ouais.
Oui, ouais, tout à fait. Sinon, un autre qui est souvent utilisé, c'est decké. Hein?
Ouais.
Decké, tu sais, on appelle ça decké quand c'est drôle, c'est parce qu'il n'y a plus de deck.
Ouais,
c'est quand on a vilé la librairie, hein, ou perdre, quand on meurt decké, c'est parce qu'on perd parce qu'on n'a plus de cartes à piger. Parlant de deck, le deck thinning, qui est comme, je sais pas, on pourrait dire, maigrir son deck, le rendre un peu plus efficace.
Le purifier.
Le purifier, si on veut, oui, c'est sortir des cartes, souvent des lands de son deck, par différents effets, hein, pour avoir plus de chances de piger tes bonnes cartes.
Ça pourrait-tu être aussi, genre, enlever tes cartes qui sont des dead weight, là?
Exactement, tout à fait.
Que tu t'es tout le temps pogné avec dans ta main, puis que tu finis par jamais les jouer, genre.
Tout à fait, c'est ça. Mais tu sais, en partie, ça peut être justement en fin de partie, tu vas faire des effets comme utiliser un fertilide, par exemple, qui te permet d'aller chercher une land. T'as pas nécessairement besoin de cette land-là, mais si tu l'enlèves, t'as moins de chances de la piger.
Ouais,
fait
piger
que
ça
s'appelle le tiner son deck. Sinon, parlant de land, il y a certaines subtilités dans le jargon du mana puis du land. Il y a le fixing et le ramping.
C'est quoi la différence?
C'est quoi la différence? Hein? Le fixing, hein, c'est que ça fait souvent référence aux couleurs de mana. C'est que tu vas pas nécessairement aller chercher plus de mana. Ramping, c'est que tu vas aller chercher plus de mana.
Ah, je comprends.
Par rapport justement, mettons, à ta curve, qu'autour d'eux, ben, tu aurais 3 mana disponibles au lieu de 2. Tandis que fixing, c'est que tu en as 2, mais tu as des couleurs que ça te prend.
Okay.
Fait que, par exemple, quelque chose qui donne les deux, ce serait le Chromatic Lantern, hein, un artefact qui coûte 3, qui lui-même peut taper pour donner un mana de n'importe quelle couleur.
C'est
du ramping parce que autour 3, tu as une quatrième source de mana, mais ça transforme toutes tes lands en production de la couleur de ton choix.
Ça, c'est le mana fixing.
Et voilà. Mais souvent aussi, le fixing, il va venir à un certain coût, comme avec le Prismite, qui est une créature pour 2 que tu payes 2 pour ajouter 2 colorless pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Fait que ça te coûte 2, mais ça te permet de produire la mana que tu veux. Même l'Anowar Envoy qui fait la même chose. Puis souvent, ça va être pour le ramping, tu vas aussi avoir souvent des instants ou des sorceries là, dans le vert, là, comme Cultivate.
Dans le rouge aussi.
Growth Spiral, hein, qu'on a parlé tantôt.
Oui, c'est ça. Oui. Tu mets le land, puis là, tu ris de l'autre. Puis tu fais non, je commence mon tour.
Tu sais, les lands, c'est un gros parti de Magic. Hein, fait qu'il y a pas mal de jargon qui se ramasse à ça. Puis justement, tu sais, quand ça va pas bien avec tes lands, tu le sais, puis t'aimes pas ça. Puis il y a différents termes pour en parler. Ben, t'as le flood. Quand t'en as trop.
Ouais.
Quand t'en as trop, t'es rendu. T'es tanné, là. Ça,
tu pèges juste
tes lands, c'est ça. T'as le drought, hein, la sécheresse. Quand t'en manque, tu t'es gardé 3 lands dans ta main de départ. Tu t'es dit, ah, si j'en pige un d'ici le tour 4, ça va être correct. Mais là, t'es rendu tour 6, puis t'as toujours pas pigé ta quatrième land, puis t'as une
main pleine de spells. Oui, à l'autre bout. Là,
ben,
parce
que, Et Mana Screw, ça, c'est quand t'as la bonne quantité de land, mais t'as pas les bonnes couleurs.
OK.
Ah ouais, hein? Moi, Mana Screw, c'était juste pas de
land. Ben, en général aussi, là.
Non, je ne connaissais pas le Mana Draw de bord. Mana Draw, ça va rester Mana Screw.
Oui, Mana Screw, c'est assez général, là.
C'est ça.
Quand ça va pas bien, là.
Il y avait une carte de Uninj ou Un machin, qu'il y avait un artefact qui s'appelait le Mana Screw. Puis la quote, c'était « In the whole of the multiverse, there were no invention as evil as the Mana Screw. » ça faisait que tout le monde, je pense, il fallait qu'il paye 2 mana.
C'était une grosse vis sur l'image.
Ouais.
Mais non, mais c'est ça, c'est le color screw quand t'as pas la bonne couleur.
Ouais. Ok, ça me va.
Sinon, si on s'en va dans les parties en multijoueur, il y a certains termes qui s'appellent le group hug, hein, le câlin, le jardin des amis, le câlin de groupe. Hein, c'est quand tu vas jouer une carte qui a un effet sur tout le monde, un effet positif pour tout le monde. Fait que tu fais un gros group hug, là, par exemple Heartbeat of Spring, chaque joueur, à chaque fois qu'il tape un land, ça produit un mana du même type. Fait que ça double les lands de tout le monde. Sinon, Howling Mine aussi, qui est un classique là, pour deux colorless au beginning, au début de chaque tour, chaque personne va piger une carte de plus quand le Howling Mine est untapped. Sinon, ben, on peut parler aussi de Bear Hug. C'est comme un ours là, qui te fait...
La prise de l'ours.
Ouais, la prise de l'ours. Ben, fait que c'est comme un group hug, mais... Avec un petit problème. Là, par exemple, là, tu vas avoir Nekuzar de Mindraiser, qui est un commander, qui fait qu'à chaque fois qu'un opponent pige une carte, ben ça lui fait un dégât. Fait que là, le monde sont contents de piger, mais là, ça leur fait des dégâts.
Oh, c'est ça, mais ils pigent une carte de plus.
Ben, il pige une carte de plus avec celui-là en même temps.
Fait qu'au début de ton tour, l'adversaire pige deux cartes, tu perds deux.
C'est ça.
Mais toi, tu piges deux cartes, puis tu perds pas deux.
Voilà.
Ça, j'en prendrais dans mon deck.
Ben oui.
Ouais.
C'est dans les couleurs de Grixis. Là. Sinon, on peut parler de Group Slug, qui est un peu l'inverse du Group Hug, qui a un effet négatif qui nuit à tout le monde, un désavantage qui va nuire à tout le monde. Par exemple, les Mana Barbs, hein, qui est un enchantement rouge, trois colorless, un rouge, qu'à chaque fois que quelqu'un qui a un land qui est tapé pour du mana, ça te fait un dégât au contrôleur de ce land-là. Oh! Ou un classique aussi, le Pox ou Small Pox, là, qui fait perdre un de life. Tout le monde perd un de life, tout le monde discarte une carte, tout le monde sacrifie une créature, tout le monde sacrifie un land. Là, fait que c'est un effet négatif pour tout le monde.
Je préfère les effets négatifs.
Moi. Ouais, t'es un gars de même.
Ouais, ouais.
Si je souffre, tout le monde va souffrir avec
exact.
Moi.
Exact.
Très mature, là, on prie. C'est quoi ça, un non-bo?
Ben, le monde, tu connais les combos.
Ah oui, ça, je connais.
Tu connais les combos. Ben, un non-bo, hein, c'est l'inverse d'un combo. C'est
deux cartes. C'est combo?
Non, c'est plus ces deux cartes que si tu les joues ensemble, leurs avantages s'annulent. C'est comme,
okay.
Tu te dis que ça serait une bonne idée, c'est deux bonnes cartes, mais quand ils jouent ensemble, ça s'annule. Par exemple, un bon exemple de ça, dans les Sliver, si tu joues le Crystalline Sliver, qui est pour un bleu, un blanc, ça donne Shroud à tous tes Slivers. Shroud, ça les empêche d'être targetés par des effets et des spells. Et puis si tu joues le Magma Sliver, tous tes Slivers, ils ont, si tu le tapes, Target Sliver gets plus X plus 0 pour qui est X et le nombre de Slivers en jeu, là tu peux pas targeter tes Slivers parce qu'ils ont Shroud. Fait que ça, c'est un non-bo. Un autre classique là, dans des cartes plus récentes, là, Daxos, Blessed by the Sun dans Theros, qui était le demi-dieu blanc. À chaque fois qu'une créature rentre en jeu, tu gagnes une vie. Une autre carte qui était souvent jouée dans le blanc, c'est le Hushbringer qui fait 1-2 qui annule s'il y a un Enter the Battlefield effect, ouais. Là, il n'y en a pas, ça les annule. Fait que c'est comme deux cartes que tu pourrais jouer dans le même deck, mais qui se nuisent l'une l'autre.
On pourrait faire des nombos genre pour annuler un effet négatif d'une des cartes.
Ça serait un combo.
Ben, en même temps, si c'est un effet négatif qui est à tout le monde, puis que là, t'as une carte qui l'annule pour tout le monde, il va falloir t'inventer un deck qui fait ça, puis après ça, on trouvera le mot.
Yes.
Un pas pire beau. Un pond beau. Mon beau. Gon beau.
Un mais beau.
Mais beau, j'aime ça.
Sinon, on se dit souvent pomper hein, quand on augmente les caractéristiques d'une créature de façon temporaire, soit par une habileté ou un combat trick. Un des grands classiques de ça. Sac, c'est souvent utilisé pour un...
diminutif
de sacrifice, hein, de sacrifier, ou un sac outlet qui va être une façon de sacrifier, par exemple Witch's Oven ou Village Rites, qui était la carte de la semaine.
Ah oui, ok. Dans le fond, c'est comme une manière pour sacrifier le monstre que tu voles à l'autre. Ou,
par exemple, ouais, ou ouais, des ouais. fois, tu vas avoir des trucs qui vont bénéficier quand tu sacrifies des choses.
J'aime ça, là. Ça, sac outlet, on dirait que c'est comme un genre un casse-croûte. Là.
Ouais.
tu peux aller tout le temps au Witch Oven à chaque tour.
Exact. Scoop, ça va être utilisé souvent pour dire quand tu concèdes, c'est que tu vas ramasser toutes tes cartes comme, comme une cuillère, comme une pelle, tu vas
scooper. L'étape d'après, c'est de flipper à table.
Ça, tu peux skipper l'étape de scoop si tu veux juste flipper la table. Ouais, c'est plus dramatique si les cartes sont encore dessus.
J'avoue.
Mais c'est parce que là, il faut que tu ramasses
tes propres cartes. Ouais. Ouais,
t'es mieux de ramasser vite puis de flipper.
Ouais, ouais.
Hey, tu laisses l'autre
ça
ramasser.
Ça s'est joué en esti à terrain basique.
Hey, j'ai jamais fait ça pour vrai.
Ben oui, c'est sûr. Si t'as vu tes yeux injectés de sang.
Un terme qui est souvent utilisé, c'est le tempo.
Oui.
Hein, le tempo, ça fait référence pas mal à ce qu'on parlait tantôt avec la courbe de mana. Hein, c'est d'utiliser tout son mana à chaque tour. Puis quand on fait un jeu de tempo, c'est que tu vas essayer justement de briser le tempo de l'autre, soit en lui retournant une créature qui coûte cher dans sa main pour qu'il aille à la rejouer après. Ça va pas nécessairement affecter le board en tant que tel. Ça va pas affecter le jeu comme tel, mais ça va affecter le rythme du jeu, tu sais, pour te donner un avantage
un
de tempo.
Un deck tempo, c'est qu'à chaque drop, il y a de quoi de violent. C'est des permanents très forts pour un drop 1, c'est fort, drop 2, c'est fort, c'est toujours comme ça.
Ouais.
C'est ça.
Sinon, top deck, hein, ça, c'est quand tu piges la carte dont tu as besoin, c'est ton top deck. C'est
des petits moments de joie.
Un petit moment de joie. Tu as besoin de la grosse créature qui l'autre vient de jouer, elle va te tuer au prochain tour. Tu as besoin de ton removal, tu le top deck, ça va bien.
C'est une des façons le fun de gagner, ouais. C'est tu pognes la carte qui te fait gagner, puis là, c'est fini, là.
Sinon,
les confettis tombent.
Sinon, on peut dire qu'on est en mode top deck, hein, quand les deux joueurs ont vidé leurs mains au complet, puis tu fais juste tout le temps jouer la carte que tu piges, là, parce que c'est ça. Souvent, si le board est assez égal, là, puis là, t'attends de voir la personne qui va piger, qui va top deck la carte qui va changer la situation. Quand on utilise une ou deux cartes d'une couleur qui n'est pas dans le deck, souvent les méthodes que ça va se passer plus, là, on appelle ça un splash. Hein?
Le splash.
Splash une couleur. C'est souvent justement en draft, tu vas avoir pigé la bombe dans le rouge, mais la plupart de tes cartes sont bleues. Tu vas avoir juste une carte rouge, t'as 2-3 lands pour pouvoir la jouer là, souvent. Fait que ça, c'est un splash.
Un splash.
Tu joues pas un deck bleu-rouge, tu as un deck bleu qui splash.
C'est sideboardé généralement, des splashes.
Non.
Ah ouais?
Moi, en draft, je suis pratiquement tout le temps trois couleurs. Puis il y a
avec
une de ces
splash,
trois couleurs-là, hein? Que c'est genre trois spells qui coûtent un de cette couleur-là.
Ouais.
Puis je mets trois lands.
Ouais, c'est ça. Faut faire attention. Là, tu peux pas splasher, disons, si t'as un deck principalement bleu. Puis là, tu splash une carte qui coûte trois rouges, un colorless. Là. C'est...
Ouais. Ouais, d'habitude, splasher, ça veut dire qu'il y a une couleur dans le casting cost, effectivement.
On parle souvent de stabiliser, hein, quand il y a une partie où est-ce que t'as tiré de l'arrière longtemps, l'autre a joué ses cartes, justement, puis toi, t'avais de la misère, peut-être avec ton mana, puis tout ça, mais là, tu reviens de l'arrière tranquillement, puis tu finis par retrouver une situation assez neutre pour peut-être éventuellement préparer ton comeback.
Tu
te
dis,
ben, moi j'y crois. Moi,
je veux t'entendre.
On est en train de se stabiliser. Hein?
All right.
Tapped out, hein, quand toutes les lands sont tapées. Justement, on parlait, l'autre, il y a deux islands pas tapées, c'est louche. Mais là, quand tu joues contre quelqu'un qui est dans le bleu puis il est tapped out, il a-tu dit c'est le temps, j'y vais.
Là, tu
à moins qu'il sorte.
Force of Will.
Force of Will, tabarnak.
C'est cruel en esti.
Je l'ai glissé un mot tantôt, hein? Fizzle. Fizzle, c'est quand un sort est annulé, qui se résout pas, hein, qui peut pas se résoudre parce qu'il n'y a plus de target légal ou existant. Ça va se passer justement souvent avec des trucs comme Village Rites ou Witch's Oven parce que la personne te fait un spell de removal puis tu sacrifies ta créature, son spell Fizzle. Hein? C'était avant 99, avant l'update des règles de la 6e édition, là, ils avaient fait une grosse update. C'était un terme officiel qui disait que c'était le terme. Mais le terme est resté, mais ça n'existe plus dans les règles de Magic. Avant Dominaria, il disait que le spell était countered, tout simplement. Il était contré sa résolution. Puis là, maintenant, ils disent qu'il tout simplement, il se résout juste. Le spell se résout pas, mais ça, c'est quand même important des fois si y a un autre effet qui est relié, disons je pète une de tes créatures puis je gagne 4 de vie, ben là si moi toi tu sacrifies ta créature, ben là
je gagne pas 4 de vie
parce que le spell il fait zone.
Ça compte quand même comme un spell blanc qui a été casté.
Oui, parce que c'est le spell a été
mais
casté.
Ça ne compte pas comme un spell blanc qui a été successfully cast.
Ouais, ouais. Exactement.
Voilà.
Sinon, il y a des types de stratégies hein, qui peuvent être utilisées, qui on va dire aller wide, tall ou over, donc large, haut ou par-dessus. Hein, wide, c'est que tu vas avoir plusieurs petites créatures qui vont s'étendre sur le board, fait que ça va aller large. Hein, pour essayer de passer à travers la défense, pour passer à côté. Tall par-dessus, c'est que tu vas avoir souvent une bébite, une grosse créature que tu vas booster avec différentes habiletés, avec des équipements, tout ça pour faire tes dégâts avec ça. Puis sinon, over, ça va être avec des créatures, plusieurs créatures qui vont avoir du evasion, souvent du flying, le fait que tu vas essayer de voler.
Ou du menace.
Menace, ça, c'est cool. Etc. Ben, evasion, c'est un truc que je vais parler.
Ouais.
Ben, c'est ça. Evasion, c'est un truc que je vais parler dans une autre catégorie.
OK.
Ben, on peut y aller tout de suite. Je ne sais pas où est-ce qu'on est dans le
temps. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Si ça va nous faire un autre très beau dossier. Merci beaucoup. Emmanuel.
Ben, ça fait plaisir. Puis, comme je vous dis, là, gênez-vous pas. Si des fois, peut-être, c'est des termes que vous utilisez plus dans vos groupes de jeux ou des choses que j'aurais oubliées.
Il y a peut-être une manière de rendre le lexique que tu es en train de faire comme... disponible, puis après ça qu'on le fasse évoluer dépendamment des suggestions là, comme faire une base de données semi-officielle mais
là, aller sur internet
ouais. Tu reviendras avec ça pour
ben
vous parler de ce que les gens vont commenter.
Dans mes prochaines chroniques je vous parlerai des types de cartes et des keywords qui non officiels pour l'instant.
Hey, merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi aussi Lompré.
Ça m'a fait plaisir.
On check ça, Double Masters. Moi en tout cas, si t'ajoutes une boîte, je fais un draft puis je t'ajoute un booster.
Oui, yes.
Je vais acheter un paquet VIP là.
Non, ah ouais, sur eBay là.
Non, pas là. Je vais attendre que ça soit pour vrai là. En tout cas, à suivre. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir écouté cette émission de Terrain Basique. Mon nom est Tommy Godette et au nom de toute l'équipe, j'aimerais remercier vraiment beaucoup Martin Godette qui s'occupe du montage, ainsi que Bone, hein, notre Bone qui fait des beats. Allez voir son Bandcamp, vous allez voir, il en fait de plus en plus ces temps-ci, il est motivé. Sinon, quoi d'autre? On est disponible sur Spotify, il y a de la merch aussi disponible à partir du Facebook là, sur Radio H2O.
J'avais dit en joke il y a deux semaines qu'il y avait des masques, là. Ben, il y a des masques.
Il y a des masques pour vrai. De Terrain Basique.
Le site, quand t'as ton logo, tu peux avoir une tasse, whatever, ben, ils l'ont sorti.
Je vais m'en acheter 12.
Ah, ben voilà, tu m'en donneras un. Sinon, merci aussi à l'Abbé. Et je pense qu'on est rendu au bout où je vous souhaite à tous de ne pas être Manascou.
Membre de la famille H2O Web Media.